vous avez l'habitude de dire shalom, n'est-ce pas? Qui peuvent recevoir cette paix-là ce matin? Merci. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu qui nous retourne en ces lieux, en l'absence du berger, du révérend Joseph et son épouse, que nous saluons en passant, pour les choix qu'ils ont portés sur notre personne, afin que nous puissions être là, nous entretenir une fois encore sur la parole de Dieu. Merci papa, administrateur, et tous les staffs pour votre accueil toujours légendaire. Nous prions que l'Éternel puisse vous accorder beaucoup plus de grâce. Continuez à garder cette église éveillée sur elle, non pas simplement que vous êtes là pour ceux-là que vous voyez, mais il y a tant d'autres qui vous admirent, qui aiment et qui suivent de loin ce que vous êtes en train de faire, qui en sont fiers et ils sont contents. Amen. Et peuple de Dieu, merci, puisque sans vous, on se serait enfermé dans nos bureaux là, on aurait parlé entre nous. Mais comme vous êtes là, nous sommes très contents. Ce que j'aime lorsque on écoute la parole de Dieu est que lorsqu'on l'écoute sincèrement, elle est un produit pharmaceutique pour nous guérir. Et lorsque on se prête à elle d'une manière diligente et suivie, il y a un chantre qui a dit « Quand il vous voit vrai et sincère dans votre cœur, il sait vous mettre en liberté, même s'il y a des démons, des liens, et que sais-je encore. » La parole de Dieu, lorsque vous l'écoutez, la Bible dit qu'elle est la lumière et qu'elle est un feu dévorant et qui peut tout ramasser dans votre vie pour que vous puissiez être totalement affranchi. Ce matin, nous allons lire un seul passage dans Luc, chapitre 15. Luc, chapitre 15. Vous pouvez lire avec nous à partir du verset 1er, je serai très long dans ma lecture, jusqu'au verset 16, et nous irons dans ce même chapitre prendre le verset 31 et 32. Nous lisons au nom de Jésus. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole, « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis, et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans les déserts pour aller auprès de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » Disons tous ensemble, « Car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » Car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 autres justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes, et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. Disons tous ensemble, réjouissez-vous avec moi. Réjouissez-vous avec moi. Ah, vous êtes beaucoup sympathique. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays lointain, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs, garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que manger plutôt les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Je vous dispense d'autres versets que vous pouvez lire à la maison. Verset 31, « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. » Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère, que voici, était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé, plutôt. Est-ce que nous pouvons dire ensemble, parce qu'il était perdu et qu'il l'est retrouvé, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Seigneur, nous te rendons grâce une fois encore. Sans toi, nos paroles ne seront que vaines et humaines. Mais avec la grâce du Saint-Esprit, elles peuvent revêtir chair et devenir une solution, une guérison, une orientation et une dissipation de tout ce que le monde des ténèbres aurait préparé pour nous. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Après cette longue lecture, notre thème ce matin, c'est comprendre la nature de perdu que Dieu aime sauver au travers de vous et de moi et de nous tous. Quelle est la nature des perdus que Dieu aime sauver? Si nous les comprenons, et nous les comprenons à fond, le Saint-Esprit peut mettre dans chacun de nous une nouvelle dimension après cette compréhension de nous donner au Seigneur. Et ma prière ce matin, que les quelques images que Christ avait données devant ses disciples, à ces gens qui les mortifiaient par leur raisonnement, puissent nous aider à faire plus que ce que nous avions fait jusque-là. Que cette Église fasse encore davantage au-delà de ce que vous voyez et au-delà de ce que vous pensez que le Seigneur a déjà fait, puisqu'il y a encore beaucoup de choses au travers de vous, l'Église de l'IPN La Borne. Amen. Ici,
je vois déjà dans les premiers versets, au premier verset et deuxième, des choses qui me touchent. La Bible dit, il y avait des gens de mauvaise vie. Et pour ceux qui sont familiers à la parole de Dieu, les publicains, étaient des gens qui étaient humbles, qui se sentaient mauvais, mais qui se reconnaissaient devant Dieu et devant le Seigneur et son peuple saint, qu'ils étaient loin. Et lorsque Jésus passait, ils étaient prêts, soit à aller auprès de lui, à lui chercher des solutions à leurs problèmes. La Bible dit que tous les publicains et les gens de mauvaise vie, quand Jésus était là, accouraient vers lui afin qu'il leur parle, afin qu'il l'écoute, puisqu'il n'avait pas d'autre maître qui était plus important que Jésus quand il les voyait. Et beaucoup d'entre eux avaient des difficultés, ils cherchaient à ce qu'ils soient soutenus dans leurs besoins. Mais contrairement à cette catégorie de gens, il y avait les pharisiens et les scribes, les connaisseurs de la loi, les chefs religieux, les gens qui avaient la loi de Dieu écrite devant n'importe quoi, au fronton de leur portail et partout, comme je vois là-bas, terre, terre, écoute la parole de l'Éternel. Ils avaient la loi de Dieu partout, ils la voyaient. Et il l'enseignait. La Bible nous dit que eux, ces gens-là, ils murmuraient contre lui. Écoutons ce qu'il disait. Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Pendant que les uns accouraient vers lui pour l'écouter, les autres, les pharisiens et les scribes, les connaisseurs de la loi, et disaient, mais nous, dans notre loi, quelqu'un de saint, quelqu'un qu'on appelle le rabbi, celui qui enseigne les autres la parole de Dieu, n'est pas habilité à se mettre à côté en présence des gens de mauvaise vie et jusqu'à aller manger avec eux, alors que nous, nous sommes des juifs. Nous ne pouvons pas manger dans n'importe quel plat. Mais Jésus-Christ, qui avait une mission, que vous avez, que moi j'ai, que nous tous dans le Seigneur nous avons, était touché par leur murmure. C'est ainsi qu'il avait voulu leur donner des réponses par des paraboles. Nous le savons tous. La parabole, c'est un récit imaginaire qui est utilisé pour illustrer ou donner une doctrine divine qui ne peut pas être bien comprise par des termes divins, et alors on utilise des mots, des événements vulgaires pour que les communs des mortels, nonobstant les rangs sociaux et les niveaux d'intellectualisme, et tout un chacun peut accéder à la compréhension de la chose. De quelques langues que je connais, on appelle ça Sumuinu, Kitendawiri, et j'en passe. Jésus a utilisé ces langages-là pour que chacun puisse comprendre que sa mission était que les perdus soient sauvés. Sa mission de la part de son Père était que ces gens-là de mauvaise vie puissent être sauvés. Et alors, quand je lis ces récits, j'ai trouvé qu'il y avait trois catégories de perdus. Et Jésus voulait que, et ses disciples, et ceux-là qui murmuraient, puissent comprendre et connaître ces catégories-là. Et quand je lis en profondeur, j'ai commencé par moi-même à changer ma nature de m'approcher devant Dieu et de voir ces sauvés-là, ces perdus, sous d'autres manières. La première catégorie est constituée de ce que moi je peux dire les perdus conscients, mais qui se retrouvent dans des conditions ou des situations de désespoir. Dans le récit ici, Jésus a utilisé les symboles de la brebis. La brebis qui jadis vivait en communauté avec d'autres brebis, mais qui se retrouve lorsqu'ils sont allés manger, que par une circonstance ou une autre, se retrouve en dehors du troupeau. Elle se retrouve seule. Et Jésus a utilisé ce langage-là, puisqu'il avait affaire à des hommes qui étaient bergers des natures. Les Juifs paissaient les troupeaux et ils pouvaient comprendre les langages de Christ. Alors il est allé par une question. Si vous vous appelez ces gens que j'approche et qui m'approchent, et avec qui, lorsqu'ils m'offrent à manger, je ne dis pas non, malgré que vos traditions et nos traditions en tant que juifs ne les permettent pas. Mais puisque ma mission est de pouvoir les approcher et les aider à ce qu'ils soient sauvés, il y est allé par une question. Qui parmi vous les hommes bergers, qui après avoir payé les brebis, il les recueille quelque part dans la bergerie, et après avoir compté, il trouve qu'il y a une perdue qui est, il y a une brebis qui est perdue, mais que les 99, les 79, les 99 plutôt, sont là. Et il peut se dire, non, comme j'ai les 99, tant mieux pour la brebis là que je ne vois pas, puisque les autres 99 me suffisent. Celle-là, je vais la rechercher même demain ou après-demain. Tout le monde, parmi ceux-là qui l'écoutaient, avait dit non. Un bon berger, pour nous juifs, ne peut pas dormir sans qu'il aille chercher cette brebis perdue. Amen. Amen. Et il a continué dans son symbolisme à dire, il va chercher cette brebis jusqu'à ce qu'il puisse la trouver. Et une fois qu'il la trouve, il ne la traîne pas comme une forme de punition. Toi, tu n'as jamais écouté. Pourquoi est-ce que tu t'es égaré? Non. Il la prend et la met sur ses épaules, avec toutes les conséquences que vous connaissez. Vous qui avez fait ce travail, tout animal domestique, lorsqu'il est porté comme cela, il peut faire tout ce qu'il peut faire sur le corps de celui qui le porte. Pourquoi avoir choisi cette image de la brebis? La brebis, une fois perdue, a toujours peur de chercher à rejoindre les autres si du moins elle trouve que la distance est longue. Toute personne ou tout autre animal qui n'est pas brebis, qui peut s'approcher d'elle, la tendance est de s'éloigner davantage. Jésus a utilisé cette image aussi pour dire que une brebis, surtout ceux-là qui ont élevé ce genre d'animal, au village là, quand on allait en vacances, nos parents donnaient même des noms à quelques brebis. Et vous pouvez même, lorsqu'elle est perdue et qu'elle est allée loin, vous pouvez la citer par son nom. Lukombelwa Keluangibwa.
Amen.
Vous pouvez même citer son nom, Michou. Et l'animal, surtout la brebis, elles ont cette faculté-là de connaître leur nom et parfois être aux aguets, voir si du moins elle peut être secourue. Et si la brebis écoute que la voix est d'un membre de la famille et que là était toujours en fait appelée sous ce nom-là, parfois la brebis peut se tenir là. Et aussi, le symbolisme n'est pas banal. Parfois l'animal peut même commencer à crier et vous pouvez savoir où il est pour que vous puissiez le chercher et le rattraper. La brebis a cette faculté-là. Il y a certains de perdus. Nous sommes une église missionnaire. Les fondateurs de cette église martèlent, a martelé et continuent à marteler au travers de ses fils que nous sommes une église missionnaire. Une église qui n'est pas rassasiée des âmes qu'il faut gagner. Il y a des âmes conscientes que nous pouvons chercher par ces moyens et ils peuvent retrouver les troupeaux qu'ils avaient abandonnés. À notre temps, les gens qui se disent polygames, les gens qui sont passés par les avortements, les gens qui sont passés par des meurtres, les gens divorcés, les fétichistes et féticheurs. Parfois, nous citons certaines personnes que nous reconnaissons comme des chefs traditionnels, même si aujourd'hui tous les chefs traditionnels ne sont pas toujours dans les gris-gris. Il y a d'autres qui sont chefs traditionnels, mais qui sont nés de nouveau. Nous les avons et nous les connaissons. Ces gens-là, les gens qui se reconnaissent dans cette catégorie-là, ils disent que non, être polygame n'est pas une mauvaise chose. Surtout, nous qui sommes et qui peuplons les pays qu'on appelle christianisés. Même si quelques personnes ne partent pas à l'église, ne nous rejoignent pas comme ce matin, il y a la parole de Dieu qui est dans leur cœur, qu'ils entendent d'une manière ou d'une autre. Ou bien ils ont grandi dans des familles chrétiennes, mais jamais ils ne se sont tournés vers le Seigneur. Ce que nous reconnaissons est que Dieu, dans son amour, il a envoyé Jésus-Christ, son Fils, comme le grand berger, afin de pouvoir rechercher ce genre de brebis-là, afin qu'ils écoutent sa voix et qu'ils puissent soit se mettre aux aguets afin qu'ils soient récupérés. Mais ce n'est pas une mince affaire. Jésus a quitté les conforts. Jésus a quitté les champs. Jésus a quitté les anges. Jésus a quitté les honneurs. Il a quitté les lumières pour descendre dans ce monde qui était dans les ténèbres. Il était la seule lumière qui brillait, la seule lumière cible de toutes les attaques et de toutes les tentations. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il avait une mission et il l'avait accomplie. Il a cherché ce que Dieu avait créé à son image. C'est à qui Dieu avait donné le souffle de vie. C'est pour qui Dieu s'est fait ami. Il aurait créé les humains que nous sommes comme des mammifères, comme des arbres gigantesques dans les Mayombe et ailleurs. nous sommes dans la forêt équatoriale. Il pouvait nous créer comme des mammifères qui sont dans les eaux. Mais il nous a fait à son image. Malgré notre perdition, il a envoyé Jésus pour nous chercher. Voilà pourquoi vous êtes là. Voilà pourquoi nous sommes là. Mais c'est Jésus-là, après avoir travaillé, lui aussi a dit, « Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » De la même manière que moi, je suis descendu pour vous chercher, vous n'allez pas rester sur place. Vous devez aussi vous déplacer pour aller chercher cette première catégorie de gens qui sont conscients qu'ils sont perdus, mais qui n'ont pas l'espoir de retrouver le salut. Si vous êtes là, dans cette salle, ou si vous me suivez au loin, sachez que, désespéré que vous êtes, l'espérance est en Jésus-Christ. L'espérance est dans ses serviteurs qui viennent vous chercher là que vous êtes. Soyez rassurés. Il s'occupera de votre polygamie. Il s'occupera de vos anciens meurtres. Il s'occupera de vos avortements que vous avez commis. Il s'occupera de ces divorces-là et de tant d'autres vices par lesquels vous êtes passés. Tant que vous respirez encore, l'espérance est là. Tant que vous vivez encore, lorsque vous écoutez les messages d'appel et de repentance pour les forfaits commis, vous êtes conscient que vous êtes égaré, revenez au Seigneur. Et en revenant, non pas simplement que vous allez récupérer ce que vous avez perdu, et plus encore, ce qui est important. Jésus, dans le récit, insiste sur la joie que connaît la personne qui cherche et qui trouve. Voilà une dimension qui m'a beaucoup aidé et pour laquelle je prie que vous puissiez arriver à ce niveau-là. Jésus dit, lorsque les bergers auraient trouvé cette brebis égarée, lorsqu'ils l'auraient ramenée, il ne va pas rester seul. Il va appeler ses amis et ses voisins afin qu'ils puissent s'associer à lui et qu'ils puissent se réjouir. Et au verset 7e, la Bible dit de même. Si vous vous réjouissez de la brebis qui était perdue et que vous avez récupérée, ça ne s'arrête pas sur vous seulement. Au ciel, Jésus dit, de même au ciel, il y a beaucoup plus de joie pour un seul perdu qui est retrouvé et gagné au Seigneur. Ce matin, ma prière est que votre présence dans ce monde, en accomplissant cette mission que Jésus nous a donnée au travers de son Église, qu'il s'est battu, qu'un jour vous puissiez continuer à ressentir cette joie-là que vous apportez dans le cœur de Dieu au ciel. Ceux-là qui ont déjà gagné des âmes, ceux-là qui les font, ceux-là qui rêvent les faire, je vous encourage à les faire, mais ceux qui ont déjà gagné des âmes, ils savent que il y a une joie qu'on ne peut pas exprimer. Pour le berger qui a retrouvé la brebis, sa joie intérieure, il l'a extériorisée en faisant quoi? En dépensant même de son argent pour que ses amis viennent et mangent avec lui le peu qu'il pouvait avoir à cause de la brebis qui était perdue, mais qui est retrouvée. Que le Seigneur vous donne les fardeaux de comprendre qu'il y a des gens conscients de leurs péchés, mais qui ne peuvent pas être dans l'église, qui ne peuvent pas se retrouver dans nos cellules, qui ne peuvent pas être dans nos chapiteaux, qui ne peuvent pas nous rejoindre dans nos groupes, puisque ils se sentent désespérés. Ils se sentent irrécupérables à cause des péchés conscients dont ils entendent parler et dont ils sont témoins qui sont passés par là. Vous n'avez pas le temps de les condamner encore. Quand la personne vit, il faut toujours chercher des moyens auprès de Dieu pour le faire venir auprès du Seigneur. Et d'une manière pratique, cela se voit même dans nos familles. Que des chrétiens abandonnent leurs cousins, leurs sœurs, leurs oncles, leurs tantes, puisque eux sont devenus chrétiens et que les leurs sont soit impliqués dans des histoires, des fétiches, des sorcelleries ou quoi, surtout avec des gens qui nous mortifient avec des messages prophétiques, nous disant tirez attention dans votre famille, auprès de vos collègues de service, il faut tirer attention. Et à partir de là, nous développons un sérieux charnel pour ne pas être en communion avec les autres. Jésus-Christ approchait et s'approchait de ces gens-là et leur faisait écouter le message du salut. Il n'y a pas un fétiche, il n'y a pas une sorcellerie, il n'y a pas des histoires qui puissent aller au-delà de la protection dont nous jouissons de la part de Christ. Qu'aucune barrière, qu'aucun obstacle ne puisse vous empêcher à partir de vos proches, même si vous les voyez qu'ils sont en train de faire des histoires, tant qu'ils sont encore les souffles de vie, vous avez l'obligation de leur apporter l'évangile du salut, puisqu'ils en ont besoin et puisque c'est nécessaire. Là, je vais passer à la deuxième catégorie que Jésus utilise. Je crois que les mamans doivent être contentes puisque là, Jésus utilise la drachme. Il dit que, qui parmi vous les femmes, lorsque vous aviez 10 pièces, je vais vous expliquer ce que c'est que drachme, dans les langages anciens selon la légende. Si vous avez ces 10 pièces-là et qu'une pièce s'est perdue, ne peut pas prendre le balai et allumer la torche, la lampe, pour pouvoir chercher cette pièce qui était perdue jusqu'à ce qu'il puisse la retrouver. Dans la tradition juive, cette pièce-là qu'on appelle drachme était un symbole d'un amour envers son amant. Lorsque la femme entrait au mariage, c'était une forme de bague que nous portons lorsque nous nous marions. Et lorsque la femme était épousée, on lui donnait ces 10 pièces-là de monnaie pour qu'elle ne soit pas dépensée, mais qu'elle soit gardée à un endroit où, quand le mari voyait ou que la femme voyait ces choses, ça symbolisait que leur unité continuera tant que toutes ces choses-là seraient en place. Mais quand une pièce s'est perdue, c'était comme un message de négligence si son mari rentrait et qu'elle trouvait qu'au lieu de 10, il y en a 9. Alors la femme, pour ne pas laisser cette brèche-là à son mari dans son sentiment à son égard, faisait tout pour chercher cette pièce de monnaie. Et lorsqu'elle l'a retrouvée, elle était dans la joie, elle la remettait en place. Et elle aussi, elle a appelé ses amis et ses voisines pour pouvoir s'égayer avec elle à cause de la pièce de monnaie qui était retrouvée. Amen. La deuxième catégorie de personnes, ce n'est pas pour rien que Jésus a utilisé cette pièce de monnaie. Est-ce que cette pièce de monnaie peut entendre? Est-ce que la pièce de monnaie peut écouter vos cris? Non. Et là, Jésus a utilisé un symbolisme qui doit parler à nos cœurs. Il y a une catégorie de gens, de perdus, qu'on appelle les inconscients. Ceux qui ne sont pas soucieux de leur état de perdition éternelle. La monnaie, quand elle est perdue, il y a d'autres moyens qu'on peut utiliser. Et ce sont ces moyens-là que la femme a utilisés. Elle a utilisé le balai. Je crois que toutes les femmes, quand Jésus parlait de balai, disent « Ah, il y a un peu à Yéva kake qui kombo et zalakanatina. » Donc il écoutait très bien là. Et après, quand il a dit « L'allume la lampe », il dit « Oh, c'est peut-être que c'était perdu, c'est pendant la nuit. » Donc, on n'allume pas la lampe la journée. On allume la lampe, c'est la nuit. Et si c'est la journée, c'est que elle a allumé pour voir en dessous du lit ou dans des coins obscurs. Cette femme était intelligente. Pour retrouver la pièce de monnaie inerte qui ne pouvait pas écouter. Il y a des perdus dans ce monde qui sont même inconscients de leur propre perdition. Quand vous lui dites que vous êtes perdu, ils disent perdu quoi? Ou perdu où? C'est dans cette catégorie qu'on trouve des gens qui appartiennent à d'autres religions. Si dans la première catégorie, votre Bible est encore nécessaire pour leur dire que dans Matthieu chapitre 15, verset 32, dans Goliath chapitre 45, verset 6, si le livre Goliath existait, mais cette catégorie n'a pas besoin de votre Bible là. Ils disent que la Bible, ce sont des écrits des hommes. Ils ont leurs écrits saints. Donc, ils sont totalement perdus que lorsque vous les amenez avec vos versets bibliques là, ils ne peuvent pas vous écouter. Amen, Église. Ils ne peuvent pas vous écouter. Alors, vous ne pouvez pas être calme. Utilisons les moyens que cette femme a utilisés. La lampe, les balais, nous ne connaissons pas toutes ces choses, mais spirituellement, nous avons la prière. Nous devons prier, non pas d'une manière vulgaire, mais prier avec la dimension qu'il y a des catégories de gens qui ne connaissent pas la Bible, mais que d'autres moyens seulement peuvent les aider à pouvoir venir au Seigneur pour être sauvés. Vous avez beaucoup de rosicriciens, de francs-maçons, de que sais-je encore, qui sont avec nous au travail, à l'école. Ils sont des voisins. Quand vous vous passez avec votre Bible, quand vous vous chantez vos cantiques, là, non, tu es saint, et vous se moquent de vous. Ce sont des inconscients. Il y a des perdus inconscients au milieu de vous et avec nous. Ils se moquent de tout ce que nous faisons. Mais est-ce qu'il faut les laisser? Non. Jésus-Christ utilise le symbolisme de cette pièce de monnaie. Il y a des techniques. Il y a des méthodes. Et nous avons entendu beaucoup de témoignages. Que ça ne s'arrête pas sur le fait de les entendre, que ça marchait avec les autres. Mais faites en sorte que, puisque c'est notre mission, la mission de gagner les âmes, c'est une mission qui est en fait obligatoire et obligée à chaque chrétien. Le Saint-Esprit est trop riche pour utiliser des moyens auxquels toi tu n'as pas encore fait recours pour que ces inconscients-là puissent être amenés au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. L'Église a une grande mission. Il y a des inconscients qui vous disent que le ciel est où? Je vis une seule fois, je vais profiter de cette vie présente et après, il n'y aura rien. Quand vous lui tendez la Bible, vous lisez un verset biblique, il dit « Ah, bolo wana biloko na bino wana. » Nous avons notre Dieu, Azali Motumwindu. développent leur théorie pour que vos Bibles là, vos versets bibliques puissent paraître insignifiants. Et il y a même parmi les enfants de Dieu, à cause de cette attitude-là des inconscients, qui commencent à remettre même notre Bible, nos passages bibliques, qui nous font vivre en question. Vous suivez récemment dans les réseaux sociaux, il y a des gens qui acceptent l'homosexualité, qui acceptent n'importe quoi, et ça s'est fait. Ces inconscients sont là. Nous, quand on était jeunes, on entendait ces choses-là. Nous disions que ce sont des choses des blancs. Mais aujourd'hui, ce sont nos choses à nous. Pour dire que l'impérativité de chercher la face du Seigneur afin de faire face à ces inconscients soit au premier plan. Cette pièce de monnaie ne pouvait pas écouter. Cette pièce de monnaie ne pouvait pas entendre. Cette pièce de monnaie, on ne lui donnait pas les noms de Bimancha ou de qui. Cette pièce de monnaie, on ne l'a pas habituée à une certaine nourriture, pour que quand vous la mettez quelque part, après vous êtes éloigné, vous pouvez mettre des pièges comme ça pour que l'animal puisse venir manger. Non, Jésus dit qu'il y a des inconscients auxquels il faut les techniques de la part du Seigneur. Et c'est vous qui devrez les rechercher. Et c'est nous qui devrions les développer. Comment? C'est en nous approchant davantage auprès du Seigneur, avec ces fardeaux qu'il y a des inconscients qui font fi à nos passages bibliques, à nos églises, même à nos réunions. Ils ont les leurs. Et nous savons, et si vous le savez réellement, Église, qu'il n'y a que l'Église de Jésus-Christ qui est la seule porte qui amène au salut. Sinon, en dehors de Christ, il n'y a pas d'autre voie de salut. Si vous êtes conscient de ça, combien il y a de milliards et de millions de personnes, des inconscients. Vous connaissez leur pays. Et nous dormons sur nos lauriers. Parfois, on prie d'une manière lapidaire là. Oh Seigneur, guéris, sauve les âmes, sauve les âmes. Mais ici, c'est une question de ne même pas parler, c'est de s'asseoir. De faire sortir les larmes. Comment cet inconscient? Moi, je me limite au passage biblique. Que si je suis avec quelqu'un, il va comprendre la parole, je vais lui expliquer. Mais maintenant, ici, j'ai encore des gens, des millions et des milliers de personnes qui n'acceptent pas mes versets bibliques par lesquels moi je suis sauvé. Que faire? Prions d'une manière conséquente. Cherchons la face du Seigneur d'une manière conséquente. La Bible nous dit que par votre conduite, par votre manière de faire, que même ceux qui ne sont pas au Seigneur puissent être gagnés au Seigneur par votre conduite. Que nos conduites au nom de Jésus soient passées en revue. Ne dites pas que c'est toujours de cette manière que j'ai été. Mais le Seigneur sait que vous allez au travail. Vous allez rencontrer, vous êtes des gens, des inconscients. Même s'ils ne le disent pas, mais vous êtes armés par votre comportement afin de le pouvoir changer. Votre salaire peut être même être divisé par deux pour gagner un inconscient. Vous pouvez retourner sans argent de poche, revenir à pied pour un inconscient, puisque Dieu vous le demande. Soyons à l'écoute du Saint-Esprit et nous gagnerons cette catégorie déjà. Et pour terminer, nous avons la troisième catégorie que nous appelons les perdus conscients, mais qui sont prétentieux, ambitieux, les propres justes, les rebelles ou bien les immatures. Cette catégorie-là, elle s'est écrite dans l'Église. Vous pouvez en faire partie, comme moi aussi. Mais je prie qu'il n'en soit pas ainsi. Jésus donne l'image d'un père qui avait des fils. Ils avaient des biens. L'un des fils, les jeunes frères, bien-aimés, c'est touchant. Il avait vu son père et son aîné travailler. Ils ont même servi ensemble. Ils ont donné des ordres à leurs travailleurs ensemble. Ils ont gagné l'argent dans leur famille ensemble. Ils connaissaient les méthodes d'administration. Ils connaissaient comment avoir ceci. Ils connaissaient comment punir les gens. Ils connaissaient comment toutes les techniques managériales. Un jour, il s'est dit non. Papa, donne-moi ma part. Je vais partir. Ce n'était pas la volonté de son père. Mais il est parti. Et à cette époque-là, la Bible dit, quand on voulait partager les parts parmi les frères, les cadets recevaient les un tiers de l'héritage. Et l'aîné, les deux tiers. L'aîné est resté avec son père, ils ont commencé à travailler ensemble, ils ont continué à travailler ensemble. Quand il y avait des voyages, ils pouvaient partir et revenir. Et s'il y avait des missions, ils pouvaient les accomplir et rentrer. Mais les cadets s'étaient dit, je suis capable. J'ai grandi, je connais tout ce que papa fait, je vois mon grand frère comment il fait. Si on me donnait ma part, je peux aller et faire mon histoire. Et le papa l'a laissé partir. Mais là qu'il était parti, ce n'est pas pour rien que le Seigneur a utilisé le symbolisme en tant que juif de pourceau. Les juifs, même aujourd'hui, ont horaire à toucher ce genre d'animal. Et pour un juif de l'ancien, de cette époque de Jésus, un porc, ça symbolise les péchés, les mal. Quand vous lisez Lévitique chapitre 11, c'est parmi les animaux impurs. Mais vois maintenant que Jésus utilise l'image d'un fils juif qui est allé dans le manquement qu'il a contracté, il est allé chercher à manger et à paître les porcs, les pourceaux. C'est pour dire que Jésus voulait qu'ils comprennent qu'il y a des gens qui peuvent, dans leur rébellion, quitter un bel endroit, aller prétendument faire une chose analogue à ce qu'ils faisaient ensemble avec les autres. Bien-aimés, je vais m'adresser à cette catégorie-là et nous adresser nous-mêmes. Que cette catégorie de gens, que nous appelons souvent les rebelles, se sentent ou bien ils sont mortifiés. Ici, le jeune frère dans la parabole de fils prodigue, ce n'est pas le papa qui est allé le chercher. Ce n'est même pas l'aîné. Mais c'est le travail de Dieu seul. Vous vous rappelez dans l'Apocalypse, dans l'Ancien Testament, du Nebuchadnezzar. Il avait été rendu comme animal. Il a passé 7 ans loin de son royaume, loin de sa royauté et de la direction. Il a fallu que Dieu puisse revenir dans sa conscience souillée les bonnes dispositions de cœur pour qu'il revienne. Une fois encore, notre présence devant Dieu avec un amour incalculable envers ceux-là qui se sont perdus à cause de leurs prétentions, à cause de l'esprit de rébellion, de suffisance ambitieuse. Cet esprit-là gagne beaucoup de frères et sœurs. Les uns commencent les ministères indépendants. Les autres, ils font des églises ou des communautés. Tant d'autres aussi, ce sont des groupes de prière. Ils ont la même Bible, ils connaissent nos manières de faire, ils peuvent même citer les noms de patriarches de leurs églises, ils peuvent s'arroger ces qualités-là d'avoir été baptisés au même moment, les mêmes jours, dans la même piscine que tel ou tel. Ils peuvent brandir des photos ensemble avec tel ou tel, mais dans leur cœur, ils sont perdus. Ils sont perdus. Il n'y a que ceux-là, nous l'Église, qui avons l'esprit de discernement de la part de Dieu, qui peuvent comprendre que, même s'ils sont florissants, là qu'ils sont, ce sont des rebelles. Vous savez, notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Ce n'est pas pour rien que Christ a dit, un royaume divisé contre lui-même. Et dans la plupart des temps dans la Bible, il dit, en son temps, Dieu fit ça. Et Habakkuk est en train de dire, je m'étenais à mon poste, j'attendais. La catégorie des perdus, appelés rebelles, sont des perdus conscients, mais ils ont simplement été ambitieux de faire comme l'aîné ou comme leur père. Mais ça avait mal tourné. Ils ne sont pas loin de Satan qui voulait être égal à Dieu et même le dépasser. Si cet esprit-là se développe, ou si vous êtes à côté de quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, qui fait de bonnes choses, mais dans son langage, dans son attitude, vous voyez qu'il est soit dans l'émulation, soit dans les comparaisons, soit dans le propre juste, dans l'orgueil, dans ceci et cela, même s'il a 4000 synthétiseurs, s'il a une chorale plus que la vôtre, ça ce sont des imitations. La perdition reste perdition. Nous ne pouvons pas rester calmes jusqu'à donner notre chèque en blanc, dire que non, c'est le Seigneur qui est en train de faire. Non, ils imitent ce que le Seigneur faisait, ce que leurs aînés faisaient, ce que leurs pères faisaient. Mais à la fin, vous entendrez des nouvelles. Quels témoignages viennent de cette catégorie de perdus? Nous sommes l'Église du Seigneur. Faisons des choses selon la direction de notre Dieu. Connaissons ces choses, et je termine par donner l'image de Job. Vous savez, Job, quand il est passé par tout ce qu'il est passé, il avait été mortifié par ses propres amis, qui l'ont bousculé jusqu'à ce qu'il les remette en question. Les dieux pour qui il dit, j'ai été les yeux des aveugles, les pieds des paralytiques, les oreilles de ceux qui n'entendaient pas. Pourquoi je suis passé par là? Ses amis lui dirent, non mais écoutez, vous avez péché, vous avez fait ceci, c'est cela. Vous connaissez cette histoire. Mais Dieu, qui voulait les sauver, quand il parlait, lorsque vous lisez leurs histoires, c'est le genre des rebelles, c'est le genre de prétentieux, c'est le genre des ambitieux. Il développe, vous avez des passages dans les livres de Job. Il développe des théories et argumente comme quoi c'est à cause de ceci et cela. Mais Dieu dans son amour, puisque Job est resté attaché à son Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Il dit à ces trois personnes-là, si vous n'allez pas chercher Job et lui demander pardon, vous n'aurez pas la vie. Dieu a agi dans leur cœur jusqu'à ce qu'ils sont retournés auprès de Job. Et Job avait prié pour eux et ils ont été sauvés. Il y a beaucoup de personnes qui ont quitté l'église du Seigneur. Non pas puisque c'était le temps de Dieu, ou c'était le moment de Dieu, ou c'était dans la volonté de Dieu, mais c'est à cause de leurs expériences. Ils avaient prétendu que Dieu les avait envoyés ou les avait choisis pour faire tel ou tel. Mais en fin de compte, ils se retrouvent dans beaucoup de doctrines qui ne marchent pas. Des enveloppes sur enveloppes, des prophéties sur prophéties, des messages sur messages, jusqu'à s'embrouiller, des divorces sur divorces. Ayons pitié, peuple de Dieu, de cette catégorie de personnes ambitieuses qui font des choses comme l'Église du Seigneur le fait, qui prétendent agir comme s'ils avaient l'Esprit du Seigneur. Mais c'est un esprit qui est twisté avec d'autres histoires. Si nous cherchons la face de Dieu d'une manière orthodoxe, Dieu le fera revenir. Et nous écouterons des témoignages. Et à ta kokuna na kendaki, même là que j'étais allé, vous me voyez tout ce que je faisais là, mais je n'avais pas la paix du cœur. Vous allez écouter vos amis qui vous avaient déjà quitté il y a des années, qui même sont serviteurs ailleurs, qui reviendront disant, je ne vais plus chanter comme on chantait auparavant, mais recevez-moi seulement. Ce que le Seigneur nous demande, c'est avoir le cœur de ses papas. Lorsque le jeune frère est revenu, son fils, il avait un cœur grandement ouvert pour recevoir cet enfant-là. Même si son aîné n'avait pas compris cette histoire, cette façon de faire, mais le père a montré qu'il y avait encore de la place. Vous qui me suivez, qui avez des projets de quitter la vraie voie de Dieu, ou vous qui me suivez de loin, qui avez déjà quitté la bonne voie du Seigneur, recevez la grâce de Dieu pour que vous puissiez revenir à l'endroit que Dieu voulait que vous puissiez être. Que Dieu vous bénisse. Si pour un petit temps on peut se lever, dire quelque chose au Seigneur. Seigneur, donne-nous la soif d'amener les perdus vers toi. Que le Seigneur vous donne la soif d'amener les perdus vers lui, ces perdus de n'importe quelle catégorie. Aussi disons au Seigneur de nous faire goûter cette joie-là que les bergers, que la femme et les pères avaient ressentie. Cette joie-là du ciel. Prions. Éternel notre Dieu, j'aimerais te dire merci. Donne-moi la soif, encore la soif, d'amener, soit individuellement, soit collectivement, tant de perdus vers toi. Fais-moi la grâce de connaître la joie que toi tu expérimentes lorsqu'il y a une seule personne qui s'est convertie. Associe-moi, Seigneur, et associe ton Église à faire réjouir le ciel pour une seule personne de n'importe quelle catégorie qui retournerait vers toi. Ta parole étant un produit pharmaceutique, une lumière, un feu que ton peuple reçoive. Et les bénédictions, et les guérisons, et les directions, et tous ces dons qu'ils ont besoin pour la gloire de ton nom. Là que tu vois qu'il y a un cœur qui cherche à faire ta volonté, un cœur qui sera prêt à témoigner de ce que tu aurais fait, Seigneur, agis. Agis et agis encore. Au travers de ton Église, nous avons ainsi prié. Amen.